Vous écoutez
RMC. RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Salut à tous, 18h02, ravi de vous retrouver pour un nouveau Team Dugas jusqu'à 20h sur RMC avec Jean-Louis Tour qui est parmi nous. Bonsoir mon Jean-Louis.
Salut Dugas, salut tout le monde.
Salut l'ami, en pleine forme?
Oui, bien sûr.
Comme d'habitude. Comme d'habitude, exactement. Laure Lepailleur, Jérôme Rotten sont avec nous également. Bonsoir les amis.
Salut Dugas, salut à tous.
Jérôme arrive.
Jérôme arrive, magnifique.
Il finit de préparer l'émission.
Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Oui, c'est ça.
Quoi, c'est vrai?
Ouais, bien sûr, ouais.
Prépare
ouais,
ses arguments, il les note et tout, ouais. Pour être meilleur à l'antenne.
Ouais, tu vois. Ouais, c'est ça.
Tout le monde n'a pas ton talent, du gars, d'improviser en permanence, tu vois.
Allez,
lui, c'est un laborieux. Alors on y va.
Il a fini de tout préparer.
Il a écrit ses arguments, il est là. Salut Jérôme.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir Jérôme.
Salut du gars.
Ah, t'as entendu?
Ah, c'est bientôt fini.
Ah bah demain. Demain.
Oh, la purge est bientôt finie, c'est ça que tu dis Jérôme, hein? La purge est bientôt finie.
Ah non, mais moi je prépare le feu d'artifice. Hein. Il est prêt, hein. Au Parc des Princes, ça va sauter.
Allez, il va y avoir du monde.
Dugas, t'as même pas félicité Jérôme pour son poste d'entraîneur du Plessis Robinson.
Ah non, j'ai appris ça hier, c'est vrai Jérôme, entraîneur adjoint.
Eh ouais.
C'est ça, tu vas être adjoint l'année prochaine à la radio,
Non, déjà, connaissant ma personnalité, jamais je serai adjoint. De qui que ce soit.
Mm-hmm. Ouais, ça va faire plaisir au coach principal. Ça.
Bah il le sait déjà.
Tu veux lui piquer la place.
Et en fait, on nous a comparé, Gilbert m'a comparé à Courbis et Mercadal. Donc il m'a dit, mais qui va mettre les plots? J'ai dit, est-ce que j'ai une tête à mettre les plots?
Donc, voilà. Comment s'appelle l'entraîneur principal? On aimerait l'encourager.
Julien Mercadal.
Et bien, bon courage.
Julien Mercadal Zinguignon.
Ah ouais,
bon courage à lui.
On l'embrasse.
Bah oui, bien sûr.
Il prépare les séances. Là,
non, mais il viendra dans Rotten Régal à un moment. Moi, je veux qu'il me raconte comment c'est de bosser en binôme avec Jérôme.
Bien
quoi,
sûr. Tu vois. Attends, quel kiff pour lui, t'imagines. Personne ne le connaissait, maintenant tout le monde le connaît.
C'est pas possible. Alors, on y va donc pour l'avant-dernier Team Dugas de l'histoire. On va donc profiter de la présence de Jérôme dans cette première heure pour refaire un des débats mythiques de Team Dugas. Les récompenses individuelles.
Ah oui.
Dans le foot. Ou est-ce que ça sert à rien? Jérôme est venu avec ses trophées de joueur du mois, évidemment.
On aurait dû me le dire, ouais.
Ça fait beaucoup à déplacer. On n'avait pas de camionnette dispo, Jérôme.
Pas facile. Pas possible.
En plus de cela, à 19h, Adrien Rabiot est peut-être en train de s'imposer à la Juve. On en parlera avec Simone Rovera tout à l'heure.
Quoi? Oh, le mec, il a mis un but, ça y est, s'est imposé.
Fait plusieurs matchs qui.
Ouais, mais c'est un but. Hein.
Ouais, mais bon, c'est pas mal.
Oui, oui.
Il a enchaîné 5 titularisations, Rabiot.
Tu sais qu'ils ont perdu 4-2 hier quand même et qu'il est sorti aussi.
Oui, mais bon. Oui. Et puis Simone nous parlera de la dernière punchline de Zlatan. Ça, pour les dernières émissions de Team Dugas, on remercie Zlatan
d'avoir fait
encore une dernière. Quoi, voilà.
Merci.
Mais l'événement, c'est tout de suite donc dans Team Dugas avec Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui va être avec nous dans une seconde. Alors Jean-Michel Aulas, il était là pour la première de Team Dugas. Je sais pas si tu t'en souviens, Dugas, parce que tu avais des souvenirs. Un peu dans la machine à laver là.
Il nous a porté chance.
Exactement. Et donc, il est avec toi, Dugas, en direct, le président de l'Olympique Lyonnais, pour ton avant-dernière émission. Bonsoir Jean-Michel Aulas.
Bonsoir, bonsoir président. Un petit peu en ligne, incorrigible.
C'est pas grave, t'inquiète pas.
Si c'était pour un transfert, vous avez qu'à nous dire pour qui c'est, et puis voilà, ça sera plus simple.
Non, c'était pas pour un transfert, c'était pour travailler pour mes autres activités qui sont nombreuses dans d'autres domaines, donc celle-là, malheureusement, elle peut pas vous intéresser.
Bah oui, parce qu'en théorie, les transferts, c'est plus vous, Jean-Michel Aulas, c'est Juninho.
Mais c'est lui, toujours. C'est effectivement comme ça que ça se passe. J'essaye de l'expliquer. Quelquefois, je légitime un certain nombre de doutes. Quelquefois, quelques sourires malicieux, comme celui que je viens d'entendre. Mais c'est toute la difficulté quand on agit ou quand on commente les choses, c'est de faire la distinction entre le vouloir et puis ce qui existe. Et c'est là où vous faites bien, votre travail qui est un travail d'explication, c'est que vous arrivez quelquefois à faire en sorte, c'est un compliment que je vais faire, donc, vous arrivez à faire douter, y compris ceux qui veulent aller vers plus de délégation, vers Juninho par exemple, et puis quand on décortique les faits, on se rend compte que c'est pas si facile que ça à y arriver, donc vous avez raison d'être... à l'écoute de tout ce qui se passe et de le commenter parce que ça permet même pour soi-même, de rectifier les choses. Et c'est pour ça que toujours eu de bonnes relations avec vous et que je suis heureux d'être présent dans ces ultimes moments de, on va dire, d'écoute avec vous.
Soyez franc, moi je suis ravi, bien évidemment, vous nous avez porté chance, président. On a eu parfois des incompréhensions, on s'est parfois un petit peu fighté, mais c'est chacun dans notre rôle. Vous comme président, moi comme consultant, est-ce que sincèrement, Tim Dugas va vous manquer, président?
Ah, mais il va pas me manquer parce qu'on va le trouver ailleurs, Dugas.
Non. Ah, non.
C'est
non,
moi
non,
qui pose des questions.
Ouais, je vois ça, ouais. Non. non, président, je crois pas. Mais justement, c'est vrai qu'on est un média qui vous a parfois, une émission qui vous a parfois, ouais. Parfois chahuté. Effectivement, comment vous le vivez, une émission qui va s'arrêter? Alors, il y en a une autre qui reprendra, il y aura d'autres polémiques, il y aura d'autres histoires, le football ne s'arrêtera pas. Mais justement, comment vous l'avez vécu durant ces 4 ans? Bon, j'ai une voix qui porte aussi un petit peu dans les médias. Comment, par moment, vous l'avez ressenti? Souvent, vous êtes dit, Dugarry, il nous fait vraiment chier. C'est souvent arrivé.
Non, alors, je vais pas jusque-là parce qu'il y a un profond respect déjà, je dirais, du joueur, de l'homme aussi. Et puis, les invités, souvent, étaient des invités de grande qualité aussi. Et moi, j'ai une conscience, c'est que, bon, je l'ai souvent dit pour me défausser, j'ai jamais joué au foot au plus bas niveau, ni au plus haut niveau, encore moins. Et donc, j'ai le respect pour l'homme, pour le joueur. Voilà. Donc, il y avait quelquefois une appréhension de savoir si j'allais pouvoir convaincre et expliquer les choses. Mais jamais, on va dire, de sentiments malsains ou de sentiments de réprobation. Simplement, voilà, une appréhension, mais plus fondée sur, en fait, la crainte de pas arriver à convaincre ou de pas arriver à expliquer, et pas du tout d'opposition systématique ou structurelle. Pas du tout. Moi, j'apprécie ce qui est dit, j'apprécie l'émission, je l'écoute souvent, parce que bien heureusement, on ne parle pas que de moi dans l'émission. Et donc, voilà, et ça m'enrichit de ce que je ne sais pas faire, parce que quand je fais des erreurs, je ne les fais pas pour faire le contraire de ce qu'il faudrait faire, je les fais parce que je n'ai pas la connaissance du terrain, je n'ai pas la connaissance, je dirais, du jeu en tant que tel. J'ai par contre l'expérience d'avoir managé des hommes, d'avoir réussi à créer une entité qui peut perdurer même en situation difficile, soit sportive, soit économique. Et donc, voilà, le complément, c'est ce que j'essaye de trouver aussi avec Juninho, c'est-à-dire quelqu'un qui vient droit dans ses bottes, même s'il n'est pas écouté tout de suite positivement, va nous emmener là où on veut être, c'est-à-dire faire des choix qui sont des choix à moyen et long terme, sûrs, sains, parce que le football, malheureusement, n'est pas toujours très sain, et souvent, vous l'expliquez très bien, pas uniquement d'ailleurs du côté des agents, des joueurs, mais aussi des dirigeants, hein, et
bien sûr.
Se mettre tous devant la glace et de manière... Donc voilà, donc moi, non, quand on m'a proposé de venir, c'était difficile, et pour tout vous dire, je viens de couper un comité de direction avec une boîte qui est à Miami. Donc,
merci beaucoup.
Voilà, et je l'ai fait parce que c'est normal d'y être et ça me fait plaisir. Voilà.
Bon, super. Merci beaucoup. Mais écoutez, sachez, ça nous fait plaisir. Et même moi, si par moment on était dans l'incompréhension, il n'y a jamais eu de mauvaise arrière-pensée dans tout ce que j'ai pu vous dire.
Je le sais, Dugas. Et
bon, c'est très bien.
Il y a beaucoup de gens à RMC avec qui j'ai aussi d'excellentes relations. Il y a un très bon entraîneur que j'ai toujours rêvé d'avoir à Lyon et que j'ai jamais pu intégrer au bon moment. Mais bon, donc...
Coach Courbis.
Bien sûr.
Ah bah il est dispo là, hein.
Il est dispo, hein. Bon, mais dans le temps, il était tellement ambitieux que je ne pouvais pas me le payer. Mais donc,
ah oui, il a reçu son ambition à la baisse, vous devriez y arriver.
Ouais. Bon, président, on profite de votre présence pour quelques questions d'actu.
Bien sûr.
Rudy Garcia a annoncé que l'OL serait européen la saison prochaine. Alors, qu'est-ce qui a plus de chances d'arriver? Que vous battiez le PSG en coupe ou vous gagnez la Ligue des Champions?
Non mais déjà, en plus, pour corroborer, ça doit vous faire plaisir d'entendre votre entraîneur qui amène cette ambition-là et qui est aussi vindicatif. C'est plutôt bien.
Qu'est-ce que c'est
l'ambition?
C'est bien et c'est cohérent avec l'ambition du club, de l'institution. Et c'est vrai que bon, on est déçu de ce qui s'est passé depuis 23 ans de manière consécutive. Et alors que les championnats se terminaient, on était européens. Et manque de peau, la seule année où il ne se termine pas, pour le moment, on ne l'est pas. Donc, c'est vrai que les joueurs, le coach, moi-même, nous devons aux supporters quelque chose qui viendrait remettre tout le monde d'accord. Donc, la meilleure manière d'être d'accord, c'est d'essayer de gagner les deux compétitions dans lesquelles on reste, parce que ça, c'est une certitude, si on les gagne, de se retrouver en Europe. Dans un cas, par la petite porte, dans l'autre cas, par une porte magnifique. Mais
Vous y croyez gagner la Ligue des Champions, Président ? Vous y croyez ?
Je n'y crois pas, mais je sais que le foot est fait de très belles histoires.
C'est vrai.
De mômes qui sortent du quartier là d'à côté, je suis au bureau, et qui réussissent à devenir internationaux, qui réussissent à jouer dans des très grands clubs parce que voilà, l'OL leur a donné leur chance, les a bien formés. Voilà, donc si on doit la gagner dans les années qui viennent, faut tout mettre cette année. Parce que il reste très peu de matchs.
Il y a plus de chances cette année que les autres.
Que les autres années. Voilà.
Ce Final 8, justement, à huis clos, peut être un avantage pour Lyon ?
Ah, il faut déjà se qualifier.
Hein. Oui, il faut déjà se qualifier.
Il faut déjà se qualifier, évidemment. Mais le process de qualification en passant par la Juve, à qui il arrive de perdre aussi des matchs.
C'est en grande forme, effectivement.
Voilà. Le fait que ça soit à huis clos. Le fait qu'on ait gagné le premier match concernant la Juve, le fait qu'on soit dans un dispositif qui est plus d'aller-retour, qui est sur un match sec, fait qu'on n'a jamais eu autant de chance qu'aujourd'hui de la perdre, mais aussi de la gagner. Parce que donc il faut être pragmatique, c'est pas faire pécher que de dire que si on doit rêver. Il faut qu'on rêve tous ensemble et il faut qu'on se mette dans la tête que, moi, vous savez, pendant la bataille pour faire reprendre le championnat, j'étais persuadé, parce que c'était légitime, qu'on allait le reprendre. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se mette, tout en risquant de ne pas avoir le même succès, dans l'idée de pouvoir faire un truc qui serait un truc... Oui. Et ça permettrait de compenser la déception immense qu'on a eue avec cet arrêt... au bout de... Parce qu'il restait quand même 30 points à prendre dans le championnat.
Ouais. Alors Jean-Michel Aulas, hier, pardon, je passe à un autre sujet, mais hier, Juninho a fait beaucoup réagir dans ses propos dans une interview dans le Guardian concernant Neymar. Ouais. Il parlait du rapport à l'argent des footballeurs brésiliens en général et citait Neymar en exemple en disant qu'il était à Paris surtout pour l'argent. Ça a provoqué la colère de Leonardo qui a publié qui a transmis en tout cas un communiqué à RMC Sport en disant que le Lyon parlait beaucoup trop souvent du PSG et de ses joueurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
Non, mais alors, tout d'abord, et c'est dans ma nature, je vais défendre Juninho, parce que donc cet article dans un journal international, assez long, puisque je crois qu'ils disent que l'entretien a duré 2h30, est basé sur essentiellement le Brésil et sur ce qu'il ressent comme étant une organisation, on va dire, politique, mais aussi... social, très très dur pour ses compatriotes. Et quand on lit, moi je l'ai lu en entier, ça m'a bouleversé. Ce que dit Juninho, j'aimerais que tous les gens qui aiment le foot puissent l'exprimer, je dirais, de manière traditionnelle, de manière tout à fait ouverte, pour dire qu'il y a des choses qui, dans certains pays, se passent et qui sont terribles. Et quand c'est son pays et qu'on est expatrié, moi je trouve assez bien que Juninho ait eu le courage, ait eu la lucidité et aussi une forme, je dirais, de savoir-vivre, de l'exprimer. Après, c'est vrai que, il est, comme est Juninho, extrêmement direct et il a pris simplement, dans peut-être un vingtième de l'article, une appréciation sur, on va dire, et c'était en fait... par rapport à Lyon, pas par rapport à Paris, parce qu'il voulait donner l'impression que, et l'envie à nos joueurs de tout donner et de jouer non pas pour l'argent, mais pour les titres. Parce qu'il dit toujours, moi j'ai à Lyon souvent gagné des titres. Bon, c'est vrai qu'on a gagné plus que la plupart sur la même période que tous les autres clubs. Et donc, c'était pas dirigé contre... Il adore Neymar. Il dit d'ailleurs dans le même article que Neymar est probablement le joueur le plus doué de
oui, mais il n'était peut-être pas forcément obligé de le prendre comme exemple. Ça n'aurait pas dénaturé son propos.
Probablement. Mais je ne dis pas qu'il a tout fait bien. Je dis simplement que, voilà, il a cité Neymar en disant d'une part que c'était un très grand joueur, mais que, voilà, et surtout, parce qu'il faut lire jusqu'au bout, c'était pour dire que aujourd'hui, peut-être Neymar avait des envies d'ailleurs. Et donc, ce n'était pas uniquement qu'il avait envie d'argent, mais que, en fait, l'argent ne résolvait pas tout.
Mmh. Vous voyez, c'est, oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà, donc il ne l'a pas fait pour attaquer le PSG. Bon, d'accord. Moi, je l'ai dit pendant le coronavirus, pendant le confinement. Bon, j'ai dit des choses très positives sur le PSG, sur Nasser.
Oui.
Je ne pense pas avoir parlé du PSG depuis, on va dire, le début de l'année négativement, au contraire, pour dire que j'espérais, tout comme on espère, gagner la Champions League. Mais si la Champions League est régulière dans ses effets, je souhaite au PSG de la gagner. Et ce sera pour Léo vraiment un retour sur son investissement, son travail, parce qu'il fait du bon travail. Et voilà.
Donc, Président, on vous presse un peu parce qu'on s'est engagé à pas trop vous garder. On sait qu'il y a d'autres colliers qui arrivent. Donc, il y a une dernière question de Dugas.
Président, moi, il y a un truc qui me dérange. Avec les anciens du club qui sont partis, comme Florian Maurice ou Grégory Coupé, qui sont des légendes du club, leur départ s'est mal passé. Je trouvais leur raison de partir assez légitime. Mais j'ai trouvé vos déclarations pas très élégantes, pas très classe, pour tout vous dire. Pourquoi en arriver là? Alors, je comprends un amour déçu par moment, les mots dépassent les pensées, mais pourquoi comment en arriver là? Comment vous en êtes arrivé là, justement?
Alors, Dugas, c'est vrai que j'ai eu un mot ou des mots négatifs sur Flo. Bon, Flo, je l'ai eu comme joueur. Regardez quand il est parti, comment ça s'est passé en tant que joueur. Et il est revenu, je l'ai apprécié, je trouve que c'est un garçon avec qui je m'entendais très très bien. Voilà. Et c'est vrai que c'est un amour déçu, tu as raison. Pendant le confinement, il m'a appris, alors que 15 jours avant, il m'avait démenti l'information, qu'il allait partir en plein confinement. J'étais désespéré, c'est-à-dire que voilà, j'ai été trompé amoureusement, affectivement, par quelqu'un en qui, voilà, moi j'espère avoir autour de moi que des gens qui vont travailler toute leur vie avec moi. Donc il y a quand même une très grande stabilité. Après, pour Greg, je n'ai fait aucun mot, je n'ai pas commenté. Bon, je regrette qu'il soit parti, mais c'est lui qui a pris la décision de partir. Alors peut-être qu'on n'a pas répondu trop tôt, mais bon. Tous les entraîneurs du club étaient sur la durée du contrat de Rudy. Et donc, on voulait lui proposer de renouveler un an pour se cadrer avec tous les autres entraîneurs de l'équipe première sur cette durée-là. Mais moi, je n'ai fait aucun... Greg, à l'Atlético de Madrid. On jouait avec les filles à l'Atlético de Madrid, etc. Donc non, bon, on adore le rugby ensemble. C'est pour ça aussi qu'on a d'autres amis à RMC, mais qui sont plutôt du rugby. Voilà, donc il n'y a pas de... Non, et alors simplement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il y a dans le club 17 anciens qui sont à mes côtés. 17. Je crois que c'est le recordman de France, de tous les clubs, voire d'Europe sur les clubs, on va dire, à renom. Donc non, il n'y a pas de... Là, il y a eu un... Bon, c'est vrai que le retour de Juni, à qui je fais confiance, et ça me permet de répondre à votre première question, Juni et Flo avaient un périmètre qui a été, on va dire, discuté. Ça a abouti au départ de Flo. Je le regrette. Concernant Greg, la décision, elle a été prise par Juni, non pas de ne pas le garder, mais de ne pas lui redoubler sur une longue période le contrat pour des raisons...
Oui, alors, Greg disait que rien ne lui a été communiqué avant les derniers jours de son contrat. C'est ça qu'il déplorait un peu.
Ouais, non, mais je comprends. Maintenant, il ne faut pas nous reprocher d'avoir dit choses négatives alors qu'on n'a pas dit grand-chose. C'est lui qui s'est exprimé. Et peut-être que sur le plan du timing, mais on ne fait pas que des choses parfaites. Hein, et je pense que le confinement a quand même modifier plein de choses dans le... Bon, et les deux cas que vous citez sont deux cas qui se sont passés pendant le confinement. Voilà, c'est pas facile à gérer, hein, une équipe dont on ne sait pas si ça va se terminer, on va reprendre, on va... voilà. Et à l'inverse, bon, j'ai eu à traiter le départ de Lucas, qui m'a fait une lettre, mais
Touzard,
Lucas Touzard, bon, qui est vraiment un garçon formidable, qui pourtant quelquefois a été aussi égratigné, etc., mais pas par le club. Bon, et à l'inverse, bon, moi j'ai promis, comme je promets à tous les joueurs qui partent de Lyon, d'aller les voir jouer dans leur nouveau club, donc j'irai à Berlin le voir. Et donc les contacts sont en général super bons avec ceux qui partent. Donc, c'est pour ça que ça me fait de la peine quand on pense que le contact n'a pas été...
Au moins vous avez pu corriger. Bon. Merci Président Aulas.
Mais non, c'est moi qui vous remercie. Du gars, portez-vous
bien. À bientôt. D'accord, merci beaucoup vous aussi Président. Merci.
Il se porte bien, vous inquiétez pas.
Oui, il y aura peut-être un comeback, vous inquiétez pas.
À bientôt. Au revoir Président.
Merci Jean-Michel
Aulas. Merci pour tout, bon courage.
Au revoir.
Merci.
Il y aura un comeback ?
Bah, je sais pas, c'est toujours possible, tu sais, quand on est jeune, on peut revenir à un moment.
Il va pas nous faire une Jean-Michel Larquet quand même. C'est-à-dire, la soirée sur la péniche, tu prends les cadeaux et six mois après, tu dis, je reviens.
Ouais, quel cadeau? Excuse-moi, faudra me filer la liste des cadeaux par contre, parce que là pour l'instant.
Ah bah, toi.
Et elle est arrivée tous les jours, je surveille le postier tous les jours.
Ouais,
écoute,
mais les temps sont durs là, du gars.
D'accord.
Là, c'est pas la meilleure période.
D'accord.
Surtout, il nous a tous ruinés, Jean-Michel. Il reste plus rien, on peut plus faire de cadeaux avec tout ce qu'on lui a offert sur la péniche.
Ah, c'est fou.
Mais c'est bizarre, avant l'émission j'ai vu 5 minutes 20 de pub, t'es sûr qu'il y a pas que ça rentre pas encore un peu 5 minutes 20 de pub.
C'était quoi la soirée sur la péniche? C'était pas si vieux que ça en plus, c'était il y a un peu plus d'un an.
Il y a 3 ans je pense.
Ouais.
Non quand même, ouais.
Tu sais qu'il y a sur la soirée de la péniche, il y a un taux de mortalité de 70%, là. C'est terrible.
Arrête un peu. Quel salaud, celui-là. Bon, il a raison, Jean-Michel Aulas, sur la Ligue des Champions. Ils ont jamais été aussi proches de la gagner?
Écoute, moi je voulais pas le couper parce que déjà la relation entre Duga et Jean-Michel Aulas ça se respecte sur la fin de l'émission de Duga, mais c'est vrai que je comprends pas tout quoi. Tu peux avoir des ambitions, tu peux rêver, bien sûr que tout le monde rêve de gagner avec des champions, mais le constat il est terrible déjà pour les clubs français, c'est qu'il y a qu'une équipe qui a réussi à la gagner depuis sa création et que si
oui, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle formule que nos clubs français
d'un seul coup t'as l'impression que toutes les cartes sont redistribuées et il peut tout se passer. Dire c'est un petit peu incompréhensible, en plus c'est le premier à nous dire il est passé dans l'after il y a un mois à nous dire que c'est problématique en fait le fait de l'arrêter des championnats parce qu'il n'y a plus de compétition depuis 3 mois en France pour les clubs français, c'est un vrai handicap, et que là aujourd'hui il nous annonce que en effet il a comme ambition de la gagner.
Non mais il a envie de, quand il dit ça j'ai l'impression que les états de forme des uns et des autres, on les connaît pas véritablement. Quand tu vois le Barça, le Real, City, ça a l'air un petit peu mieux.
Mais la Juve
qui est en difficulté, sincèrement, le Bayern a l'air aussi très très bien, mais il a raison d'y croire et d'espérer sincèrement.
Non, mais franchement, honnêtement,
il n'y croit pas. Non, il a envie de croire à une belle histoire.
Oui, mais Duga,
l'histoire se raconte.
Quand tu regardes, après, je sais pas, même comme il dit, il prend beaucoup de recul au niveau du sportif, mais bon, il reste président historique de Lyon, donc il connaît le football. Dire, je veux bien qu'on me dise, qu'on regarde à l'étranger, oh tiens, telle équipe est peut-être en difficulté, mais franchement, tu me parles de la Juve, tu me parles du Bayern, qui est impressionnant. Du Real Madrid.
Et n'oublions pas le niveau de Lyon aussi.
Le niveau de Lyon avant le confinement, d'un seul coup. Alors, ce confinement va transformer tous les joueurs de Lyon aujourd'hui, va transformer Rudy Garcia dans ses choix tactiques.
Le truc, c'est que tu récupères les blessés, quoi.
Tu récupères les blessés. Ils se sont transformés face à la Juve, sincèrement, le match face à la Juve, le match aller, c'est incroyable ce qu'ils ont réalisé. Personne n'aurait pu les imaginer à ce niveau. Pourquoi ils seraient pas capables de le refaire?
Alors,
sur 3-4 matchs, alors peut-être pas le gagner.
Effectivement,
le faire une demi.
Vu ce contexte, effectivement, du gars, tu pourrais dire que si tu joues sur un match, ils auraient éliminé la Juve parce qu'ils avaient tout donné sur un match. Donc effectivement, la configuration fait que tu peux espérer. Mais en toute honnêteté, quand on regarde cette équipe de Lyon, il y a vraiment peu d'espoir de gagner cette Ligue des Champions à côté des autres équipes. C'est-à-dire que tu peux rêver, mais
c'est une façon de gommer la mauvaise saison lyonnaise. Ah, c'est sûr que s'ils font une vraie perf en Ligue des Champions et qu'ils venaient à gagner avant la finale de coupe contre le PSG.
C'est possible, Jérôme.
Oui,
c'est possible.
La finale de coupe, autant c'est possible.
C'est la finale de la coupe.
Oui, mais sauf que si tu la rates, Et que tu passes à côté, en toute logique, mais, le PSG. Mais
Jérôme, on sait ce que c'est, les coups de sifflet, l'arbitrage, un joueur expulsé. Ouais. Il peut tout se passer. Attends, ça fait des années qu'on commente les matchs, qu'on les voit.
Ah non, pour gagner la finale de coupe, on est d'accord.
On a vu des choses parfois.
Champion du gars, quand même.
Non, bien sûr, mais on a vu des choses parfois incroyables. Il faut laisser sa chance au produit. Personne peut savoir dans quel état on va être l'Olympique Lyonnais. Attends, Depay, ça reste un joueur talentueux. Dembélé aussi, Aouar, c'est quand même des joueurs qui sont capables de changer le cours d'un match. Donc,
quelle pilule t'as avalé, tu m'as dit.
Non, Dembélé, mais j'y crois pas, Dembélé, bien évidemment que j'y crois pas. Mais sincèrement, je me suis tellement trompé. Des paris, on les a fait à chaque fois, les paris sur des matchs. Sincèrement, qui aurait pu imaginer des trucs. Moi, le triplé de Lucas, je m'en suis pas remis encore. Et lui non plus, je crois. Et lui non plus, depuis, je crois. D'ailleurs, il s'en remet pas. Non, mais tu vois, sincèrement, il y a tellement de choses folles dans le football.
Bon, on verra avec ce Final 8 s'il y a plus de surprises aussi. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a plus de surprises quand c'est sur un match que sur deux?
S'il y avait la mallette à Rocco à mettre, je peux te dire que je la mets pas sur.
Alors la mallette à Rocco, on va pas réexpliquer ce que c'est pour ceux qui n'ont pas compris, mais bon.
Voilà, mais
c'est un pari, quoi.
Oui, un gros pari où tu joues gros. Et ben, tu joues la visite de Rocco chez toi.
Donc là, tu joues plutôt la victoire de la Juve.
D'accord.
Dans un instant, les récompenses individuelles.
Mais pas de gars apparemment, donc bon.
Suivant la cote, je te cache pas que je mettrai peut-être une petite pièce sur. Ben ça vaut le coup.
Je pense que
Lyon aura une belle cote, ça vaut le coup.
C'est sûr. Si Rocco passe chez toi,
les récompenses individuelles ont-elles un sens dans le football? On refait ce débat historique de Team Dugas dans une seconde. À tout de suite.
RMC 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h33, l'heure Le Payeur, Jérôme Rotten, Jean-Louis Tour sont bien là. Bon Jean-Louis, nous allons parler de quoi?
On va parler du programme du Journal Moyen, qui arrive à 18h45 avec Adrien Aiguin. Salut Adrien.
Salut, bonjour, on va Adrien. S'intéresser à un personnage fascinant dans le Journal Moyen. Il a répondu à une énorme interview dans la presse aujourd'hui, une double page spéciale. Christophe Dugarry, les révélations de Christophe Dugarry. On apprend plein de choses, Christophe, dans cette interview. C'est très intéressante.
Je l'ai redouté cette semaine, elle est en train d'arriver, tu vois. Oh là là.
Du gars, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il sait que c'est une interview? Est-ce qu'il est au courant que le journaliste enregistre tout? Tu t'es lâché, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien des gens qui se lâchent dans les médias. Voilà, merci du gars.
À tout à l'heure, 18h45. Tout de suite, on revient sur les débats forts de Team Duga, les débats marquants il y a quelques mois. Vous vous êtes écharpé avec Jérôme sur le thème des récompenses individuelles.
J'ai du mal à cracher sur les remises individuelles. C'est parce que, déjà, j'en ai eu. Par contre, ceux qu'on n'a jamais eu de récompense individuelle dans leur carrière, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu aigrés avec tout ça.
Mais qu'est-ce que tu as eu comme récompense?
Qu'est-ce que tu te tripoches?
Un chamois d'or ou l'ourson d'argent?
Les toiles d'or.
J'ai été élu. T'es sérieux ou quoi? T'as eu un flocon, t'es content?
J'ai été élu. Les trophées UNIFP, tu sais ce que c'est, les trophées UNIFP.
Mais t'es connerie, c'est que j'en ai à foutre de ça, mais t'es sérieux?
Mais non, mais par contre.
Mais c'est la mort du football, arrête un peu!
C'est incroyable.
C'est génial.
En plus, j'ai pas eu le chamois d'or.
Ah, tu l'as pas eu? T'as eu l'ourson quand même?
Non, j'ai eu la flèche.
Ah, la flèche, magnifique.
Mais pas d'or.
Sacré Jérôme.
Mais il le pense pas, je suis sûr qu'il chauffe. Il
m'a chauffé. Je
crois qu'il le pense.
Tout ce que j'ai à la maison, heureusement que je le pense.
J'aime bien, c'est même des mois après, ça change pas. Alors, à l'époque, je crois, j'ai un doute, mais je crois que c'était autour du ballon d'or et des catégories supplémentaires qui ont été inventées. Il y a eu le ballon d'or des jeunes qui a été rajouté, et donc on se posait la question.
Ah non, c'était pas là-dessus. C'était juste sur le ballon d'or. Après, les catégories qui ont été inventées. Ça, peu importe.
Ou les trophées UNFP, c'était peut-être. Bon, j'ai un doute quand même. Mais bon.
Non, c'était le ballon d'or.
C'était le ballon d'or, voilà. Alors, est-ce que les récompenses individuelles ont du sens dans le sport de haut niveau? Toi, Dugas, t'as toujours eu du mal avec les joueurs qui mettaient la quête du ballon d'or avant tout, quoi.
Oui, parce que je pense que ça fait pas de bien au collectif. J'étais un joueur, un attaquant, un offensif, qui souvent préférait faire le dribble, buteur. Le gros geste à l'efficacité. Non, pas assez buteur justement. Mais
tu peux l'insulter, c'est l'avant-dernière.
Oui, non, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Et je suis en train de remarquer sur les je sais pas, j'ai 48 ans maintenant, depuis l'âge de 8 ans je joue au football, donc sur les 40 ans que j'ai passé dans le foot, c'est quand même tellement plus sympa quand t'as un vrai collectif, quand t'as l'effort du partenaire à faire, quand le partenaire se dépouille pour toi alors que t'as commis une connerie. Voilà, ça reste un sport collectif. Moi, j'aurais jamais pu faire un sport individuel. Voilà, moi j'aime tellement partager les victoires comme les défaites avec les copains. Voilà, donc moi, j'ai le collectif est plus important et plus important que tout. Je l'ai pas été toujours durant ma carrière. Faut pas croire que pour ça j'étais un maître en la matière du tout. Mais j'aurais aimé parfois que les choses se passent encore un peu mieux de ma part. Je stigmatise pas les autres, mais de ma part parce que. Je crois que ça sert à rien. Alors après, j'ai compris, hein, c'est du marketing, c'est pour vendre des maillots, pour donner une valeur aux joueurs. Enfin voilà, bon, là, on l'a bien compris. Mais je trouve qu'à l'arrivée, ça sert pas à grand chose. Et j'ai même l'impression que ça fait plus de mal que de bien aux gens qui le reçoivent, ce titre. Voilà, alors, sauf exception, comme Messi, comme le Ronaldo, qui eux ont une telle soif de gagner, qu'on sont capables, après avoir gagné un titre très important, de repartir au combat, de repartir au charbon, d'y retourner pour en gagner encore d'autres. Voilà, je trouve que pour la plupart des gens, je trouve que les titres, ou les récompenses, pardon, individuelles, sont plus négatives et jouent quelque chose de mauvais dans leur envie de réussir.
Mais du gars, tu vois, justement, quand tu parles de Messi, est-ce que Messi, il a toujours mérité ce ballon d'or? Moi, j'ai justement l'impression que, tu te fixes sur les performances, en tout cas, individuelles du joueur, mais sans vraiment penser à la performance collective. Tu regardes l'année dernière, effectivement, il avait marqué au niveau européen, je crois que c'était le meilleur buteur, mais quand tu regardes aussi son équipe, ce qu'elle a réalisé, bah finalement tu te dis que oui, ils ont gagné la Liga, mais derrière ils ont pris une remontada avec le Barça, et que si tu prends vraiment les performances des joueurs, bah peut-être qu'un Sadio Mané méritait beaucoup plus, par exemple, avoir cette performance, en tout cas cette récompense individuelle. Et moi, si je me réconcilierais avec le Ballon d'Or, peut-être cette année, si c'est Robert Lewandowski qui l'a, parce que quand on regarde quand même la saison qu'il réalise, j'ai l'impression que souvent on fait le choix entre les deux joueurs ultra fantastiques, entre Messi et Ronaldo. Peut-être que derrière on va rajouter un Mbappé et un Neymar, mais c'est vrai que parfois on oublie un peu les autres. Et quand on regarde quand même Lewandowski, plus de 50 buts marqués cette saison, si c'est pas lui qui l'a, plus les titres qu'il gagne avec la Bundesliga, bah ça serait quand même assez incompréhensif. Et je trouve que
après,
finalement,
on verra avec la Ligue des Champions.
Ouais, mais ils sont déjà, je pense, quasiment quart de finaliste, parce qu'ils ont gagné 3-0 contre Chelsea. Mais c'est vrai que quand tu regardes quand même, c'est assez phénoménal de marquer autant de buts dans une saison.
Ouais,
et donc il faudrait aussi valoriser ça. Et je pense qu'on a l'impression que c'est aussi des joueurs qui sont moins médiatisés, et du coup bah ça a moins d'impact.
Ouais, bon, après c'est vrai qu'on tombe là, pour parler de la différence des joueurs, on tombe dans une génération où quand même on a de la chance. Souvent il y en a un qui arrive par génération. Là on a la chance d'avoir Ronaldo et Messi qui sont vraiment au-dessus de la mêlée. Et quand tu, en effet, quand tu marques plus de 50 buts par saison depuis 10-15 ans, c'est sûr que c'est difficile de donner à quelqu'un d'autre.
Et t'es d'accord avec Dugas quand il dit que ça peut être néfaste pour les joueurs, c'est
non, mais je suis assez d'accord avec toi, Dugas, sur le truc. Et c'est pour ça que moi, je parle de moi, parce que quand on s'est échappé là, écharpé il y a quelques mois, on parlait de mes récompenses individuelles, mais jamais j'ai fait passer mes récompenses individuelles avant le collectif. Bien sûr que non. Le football, et t'as raison, Dugas, de dire que le football est avant tout un sport collectif, et que si un ou deux joueurs, ça suffit dans un collectif, pensent qu'à leur performance individuelle, pensent qu'à leurs statistiques, mais t'es mort, tu t'écroules. On joue pas au basket, nous, on joue à 11, et à 11 il faut tirer dans le même sens. Alors après, bien sûr que quand t'as les récompenses collectives, quand t'as les victoires, et que t'as la sensation, parce qu'après il y a le dépassement de soi, quand tu commences une saison, moi j'avais envie que le collectif, on soit très fort et qu'on arrive à atteindre nos objectifs, voire supérieurs, et par moments j'y suis arrivé, par moments il y avait des grosses déceptions. Mais à côté de ça, pour me transcender, il fallait que je me fixe aussi des objectifs individuels. Les objectifs individuels, c'était dans une équipe qui marche bien, qui gagne les matchs. Si je me disais, Jérôme, si tu mets que 10 passes décisives dans l'année, vu le poste que tu as, c'est insuffisant. Et donc, je me fixais la barre haute et je me disais, il faut que j'atteigne 20 passes décisives.
Oui, mais c'est avant tout un objectif personnel, pas l'objectif d'aller chercher un titre de meilleur passeur.
Sauf que l'un va avec l'autre. Ce que je veux dire, c'est que si je me fixe les 20 passes décisives, bien sûr que je vais finir, j'ai de grandes chances de finir meilleur passeur du championnat. Et si je finis meilleur passeur du championnat et que mon équipe, elle est en haut du tableau, elle gagne des titres, et j'ai plus de chances de finir dans les meilleurs joueurs du championnat que de finir 50e. Oui. Et
en fait, a priori, ça va pas à l'encontre du collectif.
Non, mais exactement.
Mais en revanche, certains qui veulent finir meilleur buteur, parfois.
Mais les attaquants,
perso,
c'est pour ça que, et Dugas est mieux placé que moi pour en parler. Mais, et encore, il te le dit, il a pas été assez buteur dans sa carrière.
mais ça, c'est sûr. Mais les attaquants, c'est peut-être le seul poste où on peut avoir un excès d'égoïsme. Moi, j'ai des buteurs, Paoletta, pour citer Pedro. Pedro, il était focalisé par le but, et que quand il marquait pas et que l'équipe avait gagné, il était content pour le collectif, mais tu sentais qu'il y avait, il lui manquait quelque chose. Mais ça, tu peux accepter sur un joueur, un seul joueur, et que à ce poste-là. Les autres, c'est pas possible. Et donc, voilà, ça revient. Et après, bien sûr que les récompenses individuelles, moi, j'ai toujours été content d'en recevoir, et il faut pas cracher là-dessus, parce que c'est l'aboutissement aussi d'une belle saison réussie collectivement et individuellement.
Voilà pour ce débat qui a été formidable. Roger est avec nous, et Roger là au 32-16 pour rendre hommage à Dugas. Salut Roger.
Salut.
Salut Roger.
Tu nous appelles d'où, Roger?
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Je vous appelle des Antilles.
De la Martinique.
Moi, je pensais que c'était de Norvège.
Alors, qu'est-ce que tu voulais dire à Dugas, Roger?
Non, je voulais dire à Dugas, je ne l'aimais pas tellement comme joueur. Pas en tant que joueur, la qualité du joueur, mais il était un peu râleur, comme il est râleur à la radio.
C'est vrai.
Mais au début, quand ils ont annoncé Tim Dugas, je me suis dit non, j'écouterai pas, non. Moi, je suivrai pas. Et puis j'ai écouté. Et puis ça m'a accroché. J'ai trouvé ces engueulades avec Jérôme très de haute volée, ces engueulades avec Daniel très bonnes. Et puis ses prises de tête avec d'autres. Et puis il défendait beaucoup son petit. Je l'avais même appelé pour lui dire c'était son beau-frère. L'entraîneur de Lyon, je ne me rappelle plus de lui, Genesio.
Oui. Ah ouais.
Mais je lui dis,
Genesio. Ouais.
Tes quatre années ont été très bonnes. Je pense que ceux qui viendront après toi, ils auront du boulot. Même Jérôme a du boulot, parce que c'est pas encore ça. J'embête Jérôme, mais bon.
De toute façon, je pense que
je sais pas.
Ils l'ont noté à RMC parce qu'ils m'ont pas donné la case. Donc.
Mais Dugas, tu peux encore rester une année.
Je vais venir te voir en Martinique. Roger, je vais venir te voir en Martinique, ça sera plus simple, tu verras, ça sera beaucoup plus simple.
Ah, mais je t'accueille là, je suis là depuis janvier, je suis encore là pour 3-4 mois, si tu veux, je t'attends. Hein.
Ah, 3-4 mois, ça va faire un peu juste. 3-4 mois,
Roger, il faut payer.
J'ai d'autres priorités d'abord.
Roger, 98, faut payer le billet d'avion.
Ah, bien sûr.
Et là, il vient pas comme ça.
Hein. Ah, quand même. Roger, merci pour l'hommage, en tout cas, c'était super gentil.
Merci, Roger.
Allez, puis je lui dis bonne nouvelle vie, et puis.
Merci, Roger.
Et à bientôt pour le comeback.
À bientôt.
N'oublie pas Rotten Régal, hein, 18h le vendredi. Hein.
D'accord.
Ouais, salut Roger.
Allez, bye bye.
Salut Roger, ils s'en foutent de Rotten Régal.
Oui,
à la fin.
Je peux te dire qu'il écoute à fond.
Ah, il y a le pic d'audience, c'est dingue sur la semaine. Hein, vendredi,
mais n'empêche que vous avez réussi à faire un beau truc avec Captain Larquet. C'est vrai que tous les deux, c'est un beau duo. C'est bien trouvé.
Ah, ouais.
Moi, c'est vrai qu'au début, j'écoutais pas trop et je me suis vu à écouter le vendredi.
Je t'ai dit que c'était mieux que la semaine même.
Non, c'est bien. Sincèrement, c'est bien. Sincèrement, je trouve ça très, très bien.
Dans une seconde.
Si, moi, je trouve ça bien.
Le jour. Bah, c'est formidable. Dans une seconde, le journal moyen. Adrien Aigouin et cette formidable interview de Dugas.
RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, les amis, 18h50, c'est le moment du journal moyen. Vous êtes bien avec Laure Lepailleur, Jérôme Bretel et Jean-Louis Tour.
Et donc, Adrien Aigouin, on y va.
À la une du journal moyen de Tim Dugas aujourd'hui sur RMC. Quel est le plat préféré de Dugarry? Enquête. Dugas fait-il le ménage à la maison? Révélation. Et puis, quel est le film? Quel est le film préféré de Dugas? Décryptage.
Il y avait tout ça comme question.
Ah, tout ça. Vous écoutez RMC, c'est spécial Dugas. Le 350e journal moyen de l'histoire de Team Dugas. C'est intéressant.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Team Dugas.
Adrien Aigouin.
C'est donc l'instant Dugas.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Muchas.
Primera demanda.
Muchas gracias.
Primera demanda.
Ah ouais.
Ça sent la fin de ton aventure à RMC, Dugas. Et donc, tu fais le bilan. Et comme tu es un personnage public, tu fais le bilan dans une grande interview dans la presse. Interview qui mérite donc d'être décryptée à une heure de grande écoute à la radio.
Allez, enchaîne.
Double page donc dans Var Matin, Nice Matin. C'est un groupe de presse qui compte. C'est vraiment très énormément lu en France. Le titre, Dugarry, 2 points. Je pense être un gentil garçon. C'est un cri du cœur de Christophe Dugarry, ça c'est bien. Il y a une photo exceptionnelle. Ah. Sur cette photo, c'est un document. Tu es en Italie, Dugas, avec le maillot du Milan AC, et tu es en train de dribbler Zinedine Zidane qui joue face à toi avec le maillot de la Juventus Turin.
Oh là, je me souviens de ce match, on avait pris une raclée.
L'histoire ne dit pas si tu as réussi ton dribble.
6-1, on avait perdu.
Oui, mais t'avais réussi le dribble. Là,
le dribble, ouais, mis un petit sur l'appui, là, sur la photo, évidemment, c'est arrêté. C'est une photo, mais on voit que tu le mets à l'amende et il fait bien dribblé. Et puis, donc, une des premières questions du journaliste, parce que c'est ça qui nous intéresse, donc Christophe, les copains de RMC ne vont pas vous manquer. Et donc, la précision entre parenthèses du journaliste, réponse ferme. Il ferme. Donc, Duga ferme, répond non. Alors, je me dis, oh là 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 là. Alors, il précise, ça peut paraître violent que dit comme ça, mais c'est vrai. Je n'ai pas lié d'amitié particulière à RMC. Même, parce qu'il y a un même quand même. Même si j'ai deux copains avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans, c'est Jean-Louis Tour et le producteur de l'émission Antoine Varnier. On a fait l'émission à 3, on a battu le record de la tranche horaire 18h-20h, 850 000 auditeurs. On a fait du bon boulot, je pense. T'aurais pu t'arrêter là, Duga, mais tu prends un énorme risque parce que tu ne t'arrêtes pas là. Et tu dis, Duga, et tu vas le regretter. Là, tu vas le regretter. Tu dis, ça restera des gens que je prendrai plaisir à revoir ou à inviter chez moi. Ou à inviter chez moi, mais tu sais pas ce que tu risques.
Mais
là,
où bah pourquoi?
Bah, je sais pas, mais
après, peu importe chez lui.
Là, c'est, mais la dernière, c'est demain, vendredi. Ding dong, c'est Antoine et Jean-Louis.
Il y a à manger.
On a apporté du vin et une bouquet de fleurs.
Ouais, Antoine, c'est sûr. Hein.
Ah bah moi aussi.
Alors, bon, tu dis dans cette interview que tu ne connais pas l'ennui, ça n'existe pas dans ta vie. Et tu parles de ta vie, tu dis, j'aime le soleil et me la couler douce. Voilà, moi, c'est sans filtre.
Comme tout le monde, je pense.
Alors là, on apprend des choses intéressantes. On va au fond des choses sur ta vie intime. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, tu dis, je participe aux tâches ménagères.
Ah ouais. Il fait quoi?
Il me pose la question. Qui fait les tâches ménagères?
Je fais le ménage.
Et ça me dérange pas.
Et tu fais quoi?
Pas l'aspirateur, parce que la dernière fois, il y avait l'aspirateur qui passait chez toi, mais t'étais à l'antenne.
J'ai envie de te dire, du gars, c'est une interview sans langue de bois, puisqu'à un moment, tu te lâches, tu dis, pour tout vous dire, la seule chose que je n'aime pas faire, c'est vider le lave-vaisselle. Les bras m'en sont tombés, j'ai jeté le journal, je dis du gars.
Okay. Et après, tu comprends pourquoi j'ai pas les d'amitié dans cette putain de chaîne.
Une confession émouvante ensuite, parce que le journaliste va au fond des choses, il te parle des cheveux, de ta longue chevelure à l'époque, et tu dis, du gars qui parle, tu me dirais demain matin, tu prends un cachet pour retrouver des cheveux. Je le prendrais quand même. Tu vois que la calvitie, quand même.
Tu dis du gars. Choses, ça, je savais pas.
S'il existait un remède pour faire repousser les cheveux, c'est intéressant. Alors après, il te pose des petites questions. Ton plat et ta boisson préférée. Bon, spaghetti à l'arabiata et coca. On n'est pas sur un truc très.
Spaghetti à l'arabiata.
Ouais.
On a un truc en commun.
Et ça, j'en l'avais remarqué. On te dit, quelle est ta marque de vêtements préférée? Et tu lui réponds, la seule marque qui me convient, c'est être à l'aise. Bon, d'accord. Le jogging, c'est
un t-shirt large.
J'ai tellement été là-dedans, mais c'est vrai, quand t'es joueur, tu gagnes tes premiers sous et tout, les fringues, les Versace, les Prada, toutes ces marques, les voitures, les machins, tout ça, et j'ai très vite arrêté tout ça.
Alors, après, on l'a vu, hein.
Jérôme encore dedans.
Ouais. Non, mais... Allez, bon,
et je sais que.
La classe, hein.
Ouais. Là, il y a un instant un peu canard dans l'interview, parce qu'il y a une question, c'est quel est votre film préféré, Christophe? Et là il répond, Monsieur Dugarry répond, envoyez la musique s'il vous plaît. Coup de foudre à Notting Hill. Quand Hugh croise le regard de Julia, oh là là.
Qu'est-ce qu'il est romantique,
celui-là. Qu'est-ce qu'il est romantique.
Enfin, tu l'avais bien préparé, l'interview.
Après, bon, Dugarry redevient un mec viril. On lui demande, quelle est votre voiture préférée?
Oh là.
Range Rover, évidemment.
Ah oui.
Et quel est votre chanteur préféré? Johnny Hallyday. Voilà, on redevient viril, Dugarry.
Ah, t'es Johnny, toi?
Magnifique interview.
Le Range Rover, ça va pas trop avec ta nouvelle orientation politique.
C'est vrai.
Je suis pas sûr qu'Europe Écologie Les Verts, on aime.
Je sais pas si le nouveau maire de Bordeaux.
Il est électrique, très bien.
Et puis ton objectif, quand même, ultime, c'est tes performances au golf. Et tu veux atteindre un jour, c'est quoi? C'est le par 5, c'est ça, hein? Non,
jouer moins de 5.
Moins de 5, voilà, moins de 5 un jour au golf.
Tu vas rattraper Lolo Blanc.
T'en es loin?
Écoute, j'ai joué 9 ce matin, donc l'objectif est de jouer régulièrement moins de 5. Moins de plus 5.
Bravo.
Okay.
Belle interview du gars. Bravo. On apprend tous.
J'ai eu Lolo Blanc au téléphone moi ce matin. Il est content de ta retraite, du gars. On a passé beaucoup de temps ensemble.
Pour trouver un copain.
Il va peut-être retrouver un club d'ici là.
Non.
Ah non, d'accord.
Demain, j'aurai le moyen spécial du gars. Je vais essayer de te démontrer que finalement tu vas peut-être changer d'avis parce que Team Duga va énormément te manquer. Voilà, du gars.
Bon courage. À demain, Adrien. Merci. 18h45 pour le journal moyen. Jérôme, merci.
Heureusement que c'est pas la dernière parce que déjà j'ai chialé. Déjà, j'étais à deux doigts avec ce qui qu'il nous a fait.
Ah, demain, tu vas te régaler. Hein. C'est un hommage pendant deux heures. Hein. Donc,
c'est voilà. Normal.
Ah, bien je sûr. Crois qu'en définitive, le pire moment, c'est cette dernière c'est semaine. La fin, sur les 4 ans. Ils se foutent tous de ma gueule.
Je vais te rappeler deux, trois moments en 4 ans et tu ouais. verras que c'est peut-être okay. pas le pire.
Non, non, voilà.
Laure, merci, merci également.
Merci, Laure, merci beaucoup.
Dans Par contre, on est invité aussi, nous.
Sur la péniche
ah, bah, non, non.
Chez Dugas
bah oui.
Je suis pas sûr, toi.
Non, non, non.
Franchement, au Maroc, moi, je vais bien. Pas Bordeaux, ça me. Non.
Mais n'empêche que j'ai appris à te découvrir, Jérôme, et t'es un bon garçon. Bah, je pensais vraiment que t'avais une tête de con.
Ouais. Et bah, moi, c'était pareil.
Voilà. Et non, mais t'es un bon garçon. Vraiment,
comme quoi, il
bon
faut gratter
garçon.
Un
j'ai,
peu.
J'ai, le look est pas terrible, les cheveux, c'est pas terrible. Mais t'es un bon garçon. Tu m'as fait beaucoup rire.
Allez, à demain.
À demain, 18h. Dans un instant, Franck Leboeuf, Gilbert Bribois, Julien Cazard. On ira en Italie.
Je peux dire que là, il y a la classe. Hein. Là, il est habillé d'une façon. Là, c'est pas les t-shirts larges, tout ça.
Ah,
là,
affûté,
c'est
là,
on parle de Franck Leboeuf qui arrive.
Oh là là.
Dans un instant après les infos, tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, les amis, 19h34. Franck Leboeuf, Julien Cazard, Gilbert Bribois, Jean-Louis Tour sont bien là. Bon, Jean-Louis, nous allons parler du recrutement de l'Olympique Marseille, je crois.
Exactement, du mercato. Ça, et juste avant, quand même, il y a une info de nos confrères du Parisien. Ce serait assez chaud. Jean-Louis Gasset serait le favori pour remplacer Paulo Sousa à Bordeaux. Il retrouverait donc le club qu'il a connu comme adjoint de Laurent Blanc de 2007 à 2010.
Ouais.
Et du coup, les négociations avanceraient bien, visiblement. Lui qui a donc pris une année sabbatique. Alors on pensait qu'il voulait arrêter d'entraîner complètement, mais ouais. Visiblement, le challenge lui plairait. Ça te plairait aussi ?
Oh bah oui, c'est une belle personne, c'est un humain, voilà, c'est un entraîneur qui a la bouteille, qui connaît parfaitement la Ligue 1.
T'as pas envie de lui dire de pas être dans cette galère ? Parce que Bordeaux, quand même.
C'est le genre d'entraîneur voilà, qui est capable, avec l'effectif aujourd'hui qu'il y a, de faire des petites choses, des belles choses. Voilà. Après, il ne fera pas de miracle, hein, faut pas rêver non plus. Mais déjà, c'est un entraîneur qui est dans l'humain, sur qui tu peux t'identifier à lui. Tu vois, c'est quelqu'un que t'as envie de supporter, que tu as envie d'accompagner. C'est quelqu'un qui humainement dégage quelque chose. Donc, voilà, j'espère tout simplement qu'il a surtout retrouvé l'envie d'entraîner, parce que il faut pas qu'il vienne là. C'est un club compliqué et il va y avoir beaucoup de turbulences à Bordeaux. Donc, j'espère qu'il aura le sang-froid pour pas subir tout ce qui va être compliqué quand même.
Moi, j'espère surtout qu'au bout de 6 mois, il va pas dire c'est bon, je vous laisse, j'ai juste un printemps, moi je me casse, je vais. Parce que là, ça marche pas.
J'aime beaucoup Jean-Louis Gasset. Je pense que c'est il adore les joueurs. C'est en même temps un entraîneur à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime mettre le patron, qui sait mettre les formes, mais qui sait aussi être directif. Et moi, je trouve qu'il a toujours fait du bon boulot et qu'il a été que quand il a travaillé avec Laurent Blanc ou après à Saint-Etienne, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui est très, très performant. Donc, je pense que ce serait une bonne idée.
Gilbert.
Pour une fois, je suis pas d'accord avec la légende Franck Leboeuf.
Je t'accorde ça te va bien.
Merci, cher.
Malgré le maillot que tu portes.
Hein. Exactement. Non, parce que en fait, on s'est rendu compte a posteriori, quand il a quitté Saint-Etienne, de tous les problèmes qu'il avait créés quand il y était.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire la gestion des joueurs.
Explique.
Bah, gestion des joueurs, laxisme un peu généralisé, qu'ont trouvé ses successeurs derrière. Tu vois,
oui, des espèces de sénateurs qu'on pouvait pas bouger avant.
Que lui avait recruté et qu'il a laissé faire ce qu'il voulait. Je veux dire, Ruffier par exemple, qui arrive le matin et qui dit bon, aujourd'hui je plonge pas, je fais 2 heures de vélo, je rentre chez moi. Gasset laissait faire. C'était des trucs installés pour Ruffier comme pour d'autres. Donc ça, c'était aussi. Alors peut-être que ça marchait avec lui parce que c'était sa façon de faire. Voilà. Enfin, c'est assez peu fréquent quand même dans les clubs de foot que ça fonctionne.
Gilbert, tu parles de sénateur, mais la différence c'est que à Bordeaux, il n'y a pas de sénateur. Au mieux, tu as un député de la Sarthe. Et tu n'as pas de sénateur dans
l'équipe. Lui a été responsable de l'arrivée
et
de ces joueurs-là.
Et c'est lui qui les a fait venir, ces joueurs-là, les Mbila, tous ces gens-là.
Ouais, mais ils sont des adultes. Ils ont une forme de managing qui fonctionne avec eux. Quand il y a quelqu'un d'autre, ils devraient s'adapter. Après, il s'est Gislain Printemps qui vient, qui était le numéro 2, qui est plutôt le pote.
Et pourquoi les joueurs à l'époque ont tous dit nous, on reste si Gislain Printemps? Bah, tu parles évidemment.
Mais est-ce que Jean-Louis Gasset est responsable de ça? Non, je pense pas. Et il a fonctionné avec une formule qui a super bien marché et avec l'adhésion de tous les joueurs. Avec des résultats, tu veux pas lui en vouloir pour ça.
Bon, voilà, c'est pas fait encore, hein, mais
il a fallu faire les armes pour qu'on soit pas d'accord, c'est pas possible.
C'est vrai.
Oui, mais en toute amabilité.
Bien sûr, bien. En toute bienveillance. Tout qui caractérise Team Duga depuis le début.
Oui, bien sûr.
Alors, fin d'un feuilleton.
On joue Gilbert Gress.
Juste ça, avant de parler de l'OM.
Là, on va s'énerver, là.
Oui, on fait un débat sur Bielsa pour Francky, sinon.
Non, attends, en plus, il va monter en première ligue.
Ah, c'est pas fait encore avec Leeds, mais bon. Ouais. Alors, fin du feuilleton, Gerbich. Donc, puisque Lorient a officialisé l'arrivée donc du buteur de Ligue 2, Adrian Gerbich, l'Autrichien. Alors, vous vous souvenez de l'histoire avec Brest. Il avait donné son accord à Brest. Et finalement, il va à Lorient, et bah le compte Twitter de Lorient qui se permet en plus de chambrer Brest, puisqu'ils ont fait une petite vidéo où on voit un avion prendre la direction de Brest et hop, faire demi-tour et s'arrêter à Lorient finalement.
C'est pas beau.
Il chambre. Mais en tout cas, voilà, ce sera bien un joueur de Lorient la saison prochaine. Et puis l'OM.
Enfin, il chambre, mais excuse-moi, mais le mec, il est au courant quand même qu'il va à Lorient quand même, parce que moi je veux bien chauffer les gens, mais sur le mec, je vais pas à Brest, moi je suis pas un blaireau, je vais à Lorient. On ne sait pas s'il n'a pas repris l'avion pour repartir. Non, on n'a pas vu la fin de la vidéo.
Non, visiblement non. Et puis donc les cibles marseillaises. Donc l'OM qui cherche encore un défenseur. Alors selon nos confrères de l'équipe, il y a une piste, celle du défenseur international argentin Leonardo Balerdi. Il a 21 ans. Il a été transféré en janvier 2019 de Boca Juniors à Dortmund. Il a eu du mal à, il s'est pas vraiment imposé et l'OM pourrait le récupérer donc grâce à ça. Alors Villas-Boas a pris le dossier en main. On sait que c'est un grand fan de Boca Juniors, Villas-Boas, donc nul doute qu'il l'a vu jouer là-bas comme il avait vu jouer Benedetto à l'époque. Et donc voilà, 21 ans, très peu d'expérience européenne pour lui. Et autre piste évoquée à Marseille, celle de Jean-Claire Todibo, le défenseur qui appartient donc au Barça, qui était prêté en Bundesliga à Schalke ces derniers temps. Il a 20 ans et il ne devrait pas rester en Allemagne, il devrait retourner au Barça, donc peut-être possibilité de l'obtenir en prêt, mais là encore un très jeune joueur. Alors, Duga, est-ce que tu penses que les jeunes joueurs comme ça, ça peut réussir à Marseille avec si peu d'expérience, ou est-ce qu'il y a toujours cette histoire de contexte marseillais qui peut peut-être peser un peu trop sur leur épaule?
Les deux, il faut qu'ils soient entourés, il faut qu'ils soient encadrés, il faut voilà, il faut. Après, t'as des jeunes joueurs qui ont une maturité différente des autres, donc je sais pas. Il faut pas trop de jeunes, mais je crois que cette équipe, Alvaro, il a quand même de l'expérience. Donc si pour le défenseur central, ben écoute, c'est pas si mal que ça. Il n'arrive pas directement de Boca Junior non plus, donc le gamin, il aura déjà fait un passage en Europe, bon, qui n'aura pas fonctionné, mais c'est pas pour ça que ça peut pas fonctionner ailleurs. Écoute, je sais pas, je les connais pas ces joueurs-là, mais il y a pas de vérité absolue. C'est vrai que c'est un contexte, un club particulier où t'as pas le temps de t'imposer, de t'épanouir. Donc il va falloir qu'ils montrent quand même beaucoup plus de qualité que que ceux qui sont déjà en place, et ça devrait pas être trop difficile quand même.
Non, moi je pense que c'est plutôt intéressant avec le contexte, il est pas le même qu'avant. Je crois que les supporters sont un peu plus patients quand même, et puis on sait que de toute façon Marseille pourra vivre que parce qu'il aura fait un recrutement intelligent. On a l'image de Chelsea où on s'est posé beaucoup de questions avec le non-recrutement, où il y a des jeunes qui sont arrivés, et si tu fouilles un peu, bah, t'arrives à trouver à trouver des jeunes de talent. Je parle de Gilmore, je parle de Abraham, Mount, tout ça. Pourquoi pas Marseille aurait cette philosophie-là? On le voit avec Manchester United aussi, McTominay, James et d'autres. Je pense que l'avenir des clubs français, on le sait très bien, c'est de trouver certains génies, puis on est plus pépites, c'est pareil. Mais voilà, mais qu'il va falloir être très clairvoyant et sentir mon truc.
Non, mais si le mec avait été recruté par Dortmund et l'autre par Barcelone, c'est que ça doit quand même.
Et voilà, c'est ce que je trouvais, c'est exactement ça.
Les archi-nuls, quoi. Au bout d'un moment, si le Barça, les recruteurs du Barça, les recruteurs de Dortmund y ont cru, les recruteurs de Marseille peuvent y croire aussi.
Le Barça, tu parles de ceux qui ont acheté Braithwaite, hein, on parle des mêmes. Hein. Les mecs qui en ce moment sont un peu à la ramasse quand même.
Oui, mais ils en ont acheté d'autres très bons aussi, donc.
Ces dernières années, les jeunes au Barça, ça marche pas. Hein.
Non, mais quand tu vois Ricky Puch, tu vois des joueurs comme ça qui arrivent, qui, moi, je trouve, qui ont de la qualité, qui sont jeunes, qui sont au Barça, mais qui ont de la qualité aussi, quoi. Donc,
Oui. Gilbert, un avis?
Bah, Todibo, moi, je suis un peu circonspect quand même, parce que moi, je l'ai vu, là, c'est quand la Bundesliga a repris, on parlait tous de la Bundesliga. Le pauvre Todibo, il était en galère, hein. Donc bon, on peut peut-être
mettre ça sur le contexte qui lui va pas.
Mais franchement, il a pas fait une super période à Schalke. Bon, au Barça, il y a des jeunes qui s'imposent vite, lui non. En plus, le Barça veut le vendre, il veut pas forcément le prêter, donc je pense que c'est quand même loin d'être fait, cette histoire. Donc,
mais l'OM, c'est pas un club pour se relancer. L'OM, faut être costaud, faut pas être là pour se relancer. Il y a des clubs qui sont faits pour ça, mais moi, l'OM,
bah, la question, c'est,
du gars, tu vas pas me dire que c'est un club qui est bien pour se relancer.
Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui, en fait?
Bon, il faut qu'il se lance avant de se relancer déjà.
Bah non, mais c'est ça. Non, mais la question, ce que dit Julien, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, en fait? Est-ce que il faut absolument avoir de l'expérience pour s'imposer à Marseille, ou est-ce que, vu le nouveau projet,
c'est un contexte tellement particulier, soit t'adhères, soit t'adhères pas. Il y a des joueurs que ça va paralyser, d'autres que ça va transformer. Il peut se passer tellement de choses, sincèrement, qui peut dire? C'est vrai qu'il a raison, Julien, dans ce qu'il dit. Ça paraît être plus un club où, pour pas se relancer, plus, normalement, t'es censé arriver dans un club comme ça, c'est assez confirmé, c'est costaud, avec un background derrière où t'as déjà éprouvé des émotions, tu t'es un garçon solide. Là, pour l'instant, c'est des garçons qui ont du mal à franchir le cap, mais c'est pas pour ça qu'il faut les enterrer aussi vite. Est-ce que Marseille, t'as le temps ou pas? Et le problème, c'est, est-ce que Marseille a la possibilité de faire venir autre chose, surtout? Ils ont pas les moyens de faire venir des joueurs un petit peu plus confirmés. Donc ils tentent des coups. Écoute, ils ont fait venir des joueurs confirmés ces dernières années, ça a pas forcément bien fonctionné, hein, parlant Evra, Mitroglou aussi, hein, donc il y a pas de vérité, sincèrement.
Non, et puis oui, il y a des joueurs qui dans un contexte ne réussissent pas, et puis on les voit s'épanouir ailleurs. Moi, sincèrement, je Carrasco à l'Atlético Madrid, j'ai pas l'impression d'avoir vu Carrasco de la même niveau. T'as Ocampos qui moi à Marseille m'a parfois énervé. Là on le voit, il fait quand même quelque chose d'extraordinaire. Ah oui. Il y a des joueurs qui d'un seul coup s'épanouissent. Dans notre époque, Frank Lampard à West Ham, je suis sûr, il fait de la peine. Ah oui. Et d'un seul coup, il vient à Chelsea, le mec, c'est un phénomène. Donc, voilà, c'est je pense qu'il faut pas jeter tout le monde
à la poubelle. Comparer Marseille et Chelsea. Marseille, c'est des fadas quand même. Ouais, mais être géniaux quand ça marche, mais quand ils marchent, ça marche pas.
Il y a des joueurs qui se sont
des coffres de voiture.
Il y a des joueurs qui se sont révélés plus à Marseille qu'à d'autres. Bah, moi, sinon, on n'aurait pas parié sur Robert Pires à Marseille. Et le mec fait un travail extraordinaire.
Attends, rappelle-toi. Non, mais le mec, il venait d'être vice-champion avec Metz.
Oui, mais quand t'es à Metz dans un cocon plutôt familial par rapport à Marseille, je sais pas, Christophe, il était.
Il était pas là pour se relancer. C'est ça que je veux te dire. C'était un mec qui arrivait fort d'une confiance.
Il était dans l'ascension, quoi.
Ouais, voilà. Mais on voit que des jeunes qui peuvent, le petit Camara, ça fonctionne. Lopez, ça a fonctionné. Enfin, il y a des joueurs. Mais c'est pas non plus une assurance touriste, parce que t'es formé au club et que même tu viens de Marseille, hein, il y en a pas mal qui sont plantés aussi. Hein.
Bon, nous verrons. Autre info transfert, sachez que concernant Lionel Messi, dans un entretien à la radio catalane RAC Uno, Josep Maria Bartomeu, le président, a dit Messi, moi je le vois très bien continuer au Barça, alors qu'en Espagne on annonçait qu'il refuserait de prolonger, qu'il irait au bout en 2021 et qu'il partirait. Il dit il a toujours dit qu'il voulait prendre sa retraite au Barça, donc moi je suis convaincu que ce sera le cas. Qui sera là même au-delà de mon mandat. Bon, voilà, il fait peut-être un peu de politique.
Parfait.
Voilà, on attend de voir la confirmation de Messi, surtout, hein, dans cette affaire. Et puis, je vous parlais l'autre fois d'accès d'Isassi, le défenseur central de Reims qui est sur le départ. Reims qui a fixé un bon de sortie à 15 millions d'euros. On parlait de rumeurs qu'il envoyait à Rennes. C'est Monaco qui serait chaud, même s'il n'y a pas encore d'accord, contrairement à ce qui a pu être dit. Ça pourrait être la recrue forte en défense centrale, donc pour l'AS Monaco. On revient dans une seconde pour le blind test. Peut-être l'un des derniers blind tests de Team Duga. Voilà. Est-ce que Julien Cazard va garder sa place de numéro 1 à la race? C'est tout l'enjeu de
hier, il a pris une tôle quand même.
Hier, il a pris cher, oui.
Il a pris cher.
Pardon?
Hier, t'as pris cher.
Ah, bah oui.
Quand même, t'as pris cher. C'est laissé entre vous.
C'est ça, t'as pas joué, oui. On dirait. Ça, c'est un argument à la Daniel Riolo.
Ah ouais,
clairement,
c'est pas beau. Admets,
Riolo, il se serait paré en plein milieu.
Quand t'es bon, on le dit, mais quand t'es pas bon, on peut le dire aussi, non?
32-16 pour faire équipe avec soit l'équipe des champions du monde du Gary Leboeuf, soit avec l'équipe Cazard Bribois. A tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Team Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h50, c'est le moment que tout le monde attend, c'est le moment du blind test.
Exactement, donc équipe Leboeuf Dugarry, équipe Cazard Bribois en face.
On a des bons là.
Fais gaffe Gilbert, le duo Leboeuf Dugarry a été énorme hier.
Cazard Bribois, c'est une seule défaite en à peu près 45 matchs.
Ah, vous êtes bons les gars.
Avec vous, Xavier et Grégory. Xavier, bonsoir. Il arrive, Xavier. Il arrive. Il est là.
M'entendez ?
Oui.
Bonsoir, Xavier.
M'entendez ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, tu es supporter de l'OM, tu es obligé d'aller avec Francky et Duga. Les deux ont joué pour Marseille.
Et puis en plus, aujourd'hui, je vis à l'Esch Capferré, donc.
C'est un voisin, alors.
Nous sommes à côté.
Et écologiste, toi aussi. Oui. T'es devenu écologiste aussi.
Tu peux aller faire l'émission chez Duga, alors.
Les supporters marseillais ne choisissent jamais Julien, c'est très bizarre.
C'est étonnant. Mais on joue au stade municipal du Ferré, si Duga il veut venir un soir, c'est le mardi soir.
Ouais, ok. Bienvenue. Oui, merci.
Vous jouez à quoi? C'est du foot?
Ouais, c'est du foot.
Ah, oui, désolé. Désolé. Ça sera non.
Bon, et puis Grégory, donc. Bonsoir, Grégory.
Salut, Grégory.
Bonsoir.
Salut.
Tu es avec Julien et Gilbert.
Je suis presque sûr de gagner, là.
Exactement. Ouais. Bravo, bravo, bravo Grégory, excellent.
On va voir ça.
On y va avec une première chanson.
Snoop Dogg.
Oui, Snoop Dogg, du gars.
Bah oui. Voilà, là, c'est mon métier, là. Oh.
C'est mon métier. Là, ça dégaine vite, hein.
Bah oui.
On a mobilisé toute la famille du Gary, là.
Ça commence, il commence à se rapprocher.
Très bien. 1-0. On rappelle que la triche est interdite, mais si elle n'est pas constatée, voilà.
Ça vous commence quand même, hein.
Bien sûr. Snoop Dogg, question sur un chien qui était surnommé le Pitbull.
Gattuso.
David.
Oui, David's.
Bien joué.
C'est Xavier.
David.
Non.
Ah, c'est Grégory.
Bien joué, Grégory.
T'es en place.
Avec les lunettes.
Bravo.
Oui, avec les lunettes, Edgar David, bien sûr.
Et Pitbull ? Ah ouais.
Oui, c'est le Pitbull.
Pitbull, oui, bien sûr.
Et Francky, on te dérange là ?
Non, excuse-moi, non.
Tu reçois pas quand même les réponses ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est Michael Garcia qui m'a envoyé des textos.
C'est vrai ? Enfin,
parce qu'il vient d'apprendre que j'arrêtais. Celui qui nous fait les beaux t-shirts.
Ah oui, très bien.
Tu vois, Pose 11.
On les salue.
Ouais, on salue.
Un partout, nouvelle chanson.
Sardou.
Oui, Sardou, Julien Cazard.
Ah, Julien, il est imprenable sur Sardou.
Excusez-moi, mais là, il fallait le faire. Tu vois, je suis capable de dire quand t'es bon.
Bravo, Julien. Bon, sur le décalage, c'est limite du gars, mais bon.
Ouais, presque.
Dès que c'est, ouais, bien sûr. Dès que c'est la musique de jeune, moi, je suis là. Hein.
C'est ça. Sorti en quelle année ? C'est pas la question, mais.
74
voilà. 76. Ah. 76, année.
Bayern Munich.
Bayern Munich, Saint-Etienne, effectivement. Est-ce que vous pouvez me donner un des joueurs qui a touché les poteaux carrés ?
Santini,
Gilbert.
J'ai tout donné.
Il y avait Santini et Battenet. Voilà.
Battenet. On a dit les deux, Gilbert, donc on était bien.
3-1, effectivement. Nouvelle chanson. Du gaz, ton métier.
Non, ça, Doualoupa.
Non, mais alors.
Il a pas, mais c'est une machine de guerre. Alors, voilà.
Mais tu connais les trucs de Jones en plus.
Bah, mon avis, il y a pas un truc genre Shazam qui déclenche.
Ça va pas aussi vite quand même, Shazam.
Non, ça va pas.
Et il vit avec des Jones.
Shazam, hein,
il vit avec
Shazam.
J'ai dit Shazam.
Ah oui.
Il comprend pas Jason Statham. Shazam.
Là, ça va quand même très vite. Du gars, laisse un peu de marge. Je sais pas comment c'est possible.
T'as déjà su Shazam.
Alors, pour être totalement franc, c'est pas moi qui ai trouvé.
Ah, très bien. Bravo à toute l'équipe qui est.
Voilà, lui, clairement. Non, mais lui, c'est extraordinaire.
Il y a 30 000 personnes derrière lui.
Lui, c'est le mec qui va voir l'arbitre. Pour être totalement franc, j'ai marqué de la main. Allez, sans rancune.
On n'a jamais dit qu'on n'avait pas le droit de s'entourer.
J'ai une PME derrière moi.
Voilà, c'est ça. Ça fait 3-2. Donc.
Moi, j'ai le PMU derrière moi et ça m'aide pas. Hein.
Alors, sachez que cette chanteuse est d'origine albanaise. Alors,
question
autour d'un France-Albanie. Le dernier France-Albanie. Hormis Giroud, donnez-moi un des buteurs français.
Griezmann.
Varane, Gilbert.
Ça, c'est des questions de journalistes, ça.
Payet, il n'est pas marqué.
Pour des journalistes.
Non, il n'est pas Payet, il y avait Ikoné et Coman.
Ah voilà. Oui, c'était après. D'accord. Okay.
Voilà. Ça fait 4-2.
Bien joué, Gilbert.
Vous pouvez vous refaire, il y a encore plein de chansons du gars et Francky. Nouvelle chanson, on y va. Alors, du gars.
Jennifer.
Bigot.
Non.
Moi, j'entends pas.
Ah bah, mais plus fort.
PNL.
Orelsan.
Non. Oui, Orelsan.
Oui,
les gars.
Bravo.
Orelsan,
mais oui. 4-3.
Sur le stade Malherbe de Caen, c'est ça ?
Non, pas du tout. La Terre est ronde est sortie en 2011. Qui gagne la Ligue des Champions 2011 ?
Real Madrid. Non. Non.
Barcelone, oui, Munich, Gilbert, Munich. Oui, Gilbert.
Oui, Gilbert, Barcelone.
Putain, mais tu sais qu'il note les bonnes réponses. Il note, il faut être sûr qu'il a le.
5-2,
le
il note
bon
les
score.
Points. Non,
il note
les points. Moi, je tiens pas bien les comptes.
Je me suis tellement fait attaquer dans les quiz depuis 20 ans sur RMC que je nomme le point moi-même. 5-2 pour nous.
Il a aucune confiance.
Il y a 5-3 en plus.
Tu vois, en plus, il triche.
Correctement, il y a 5-3.
Ah, mais j'avais mis 5-2, moi, c'est bizarre.
Oui, je vois que j'ai remarqué. Ils ont eu 3 chansons. Hein.
Bah oui, c'est pour ça. 5-3 donc. Et ben on enchaîne avec une chanson.
Rolling Stone.
Eh oui, ah oui, là, ça, oui. Là c'est normal.
Joli. Ah ça c'est son truc.
Les
là,
premières notes sont connues quand même.
Là, quand c'est Rolling Stone, je dis bravo. Là je respecte. Ouais,
ouais. Quand même. Paint in Black, sorti en 66. Qui est Ballon d'Or 66 ?
George Best.
Non.
Gordon Banks.
Robson.
Non.
Comment il s'appelle?
Non, mais vous êtes sur la bonne voie.
T'as le
oui, Sammy lui.
Non.
Non.
Coupe du monde 66.
Geoffrey Hurst.
Non. Charlton.
Oui, Charlton du gars.
Mais Julien, du gars, ou quoi?
Oh là là, je cherche, putain.
5 partout.
Non. Je bloquais sur Robson, j'arrivais pas à dire Charlton.
Moi non plus.
5 partout. Bon. Gilbert et Julien, vous êtes pas bien parce qu'il y a une chanson là qui arrive.
Ah mince.
Johnny.
Incroyable. Bon, on va faire une dernière question.
Ah bah oui.
Pas de problème.
Allumez le feu.
Sorti en 98, figurez-vous quelle belle année. Qui a fini meilleur buteur de D1?
Guy March.
Wiltord.
Oui, non, c'est après, l'année d'après.
Si, tu dois faire une dernière question de départage. La question de la gagne.
Bah bien sûr, mais ça va être sur une chanson.
Un truc. Oh non, pas une chanson.
Allez, c'est parti.
Merde.
Ah, c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile.
Vas-y.
Lady Gaga?
Non.
Oh merde, du reggae. Non,
vous
ça.
L'avez pas. Vous l'avez pas, on laisse tomber. On va départagé sur la question foot. C'était Nutty. Qui a dit Nutty?
Il a dit, ouais, quelqu'un a dit.
Grégory?
Bah oui, Grégory, il est là.
Énorme. Incroyable. Victoire donc de Gilbert et Julien. Voilà,
Bravo Francky,
vous avez fait un gros match hein, quand même.
On s'est battu.
Grégory, on t'envoie un t-shirt RMC. Merci Francky, merci Duga. À demain 18h. Gilbert, Julien vous retrouve ce soir dans l'after à 22h. Et donc demain, c'est vraiment la dernière de Team Duga. La dernière pour entendre Christophe Dugarry sur RMC. C'est à 18h demain.
Moi, je pars en vacances avec Franck Leboeuf.
Et Gilbert, vous allez vous régaler. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi.
Le RMC.
Pareil, la légende.
Le RMC Football Show dans un instant. C'est trop émouvant là, je vais chialer. Ciao à tous.
RMC, Team Duga.